Chers amis pèlerins, voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Depuis un certain nombre d'années déjà, cette parole tirée de l'Écriture sainte me touche, habite mon cœur, mon âme et mon esprit. Tant il est vrai, me semble-t-il, qu'elle nous permet de comprendre, d'aller plus loin dans le mystère de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, au début de ma catéchèse sur la parole de Dieu cet après-midi, je tenais absolument à vous la partager. Qui parle ? L'apôtre Paul, le rédacteur de la grande majorité des textes du Nouveau Testament. L'apôtre des nations s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Que notons-nous d'abord ? Face, non pas seulement à l'écoute, mais à l'accueil de la parole de Dieu, Paul est dans la joie. Il est dans l'action de grâce. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Pourquoi ? Parce que, réellement, vous avez accueilli la parole de Dieu. Et cette parole, non seulement vous l'avez accueillie, dit-il aux chrétiens, mais vous l'avez entendue. En d'autres termes, elle est passée par votre cœur, par votre intelligence, par votre esprit et par votre âme. Vous ne l'avez pas seulement écouté comme on écoute superficiellement. Alors, la parole serait entrée par une oreille et immédiatement ressortie par l'autre. Non, vous avez accueilli, entendu la parole de Dieu. Et quel en a été l'effet ? Elle est à l'œuvre en vous, les croyants. Le prophète Isaïe le dit, comme une pluie abreuve la terre, ainsi ma parole, qui ne remontera pas au ciel d'où elle est descendue, avant d'avoir produit de nombreux fruits dans le cœur des croyants. Oui, en ce dimanche plus particulièrement consacré à la parole de Dieu, selon la volonté du Saint-Père le pape François, depuis le 30 septembre 2019, je voudrais repartir de cette affirmation forte du converti sur le chemin de Damas. Ces quelques lignes nous permettront tout d'abord de parler de l'importance de la parole de Dieu avant, dans un deuxième temps, de nous interroger sur ce qu'est réellement la parole de Dieu. Le pape François publié à motu proprio le 30 septembre 2019. Tiens, le 30 septembre, comme par hasard, fête de Saint Jérôme, docteur de l'Église. Et nous connaissons bien son affirmation forte. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et au long de mon propos, j'essaierai de faire comprendre combien, finalement, le Christ lui-même est la parole et la plénitude de la révélation. Mais revenons-en à ce que disait le serviteur des serviteurs de Dieu dans son motu proprio intitulé, on utilise toujours les deux premiers mots en latin du texte visé, de ce motu proprio intitulé « Aperuit illis », « Il ouvrit ». Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, le verset 45. Et plus généralement, ce chapitre 24e de l'Évangile selon saint Luc nous situe au soir de Pâques. C'est le merveilleux épisode des disciples d'Emmaüs. Oui, ce soir-là, Jésus ouvrit l'intelligence des disciples à la compréhension des Écritures. On parle souvent des sept dernières paroles du Christ en croix, juste avant sa mort. Et voici que, alors que Jésus ouvrit l'intelligence des disciples à la compréhension des Écritures, nous nous trouvons là devant un des derniers gestes accomplis par le Seigneur ressuscité avant son ascension et avant la Pentecôte. Ce temps merveilleux de Pâques marqué par les apparitions du ressuscité qui déjà est glorifié auprès du Père et déjà transfiguré par la puissance de la résurrection dans son corps. Que se passe-t-il au soir de Pâques ? Jésus ressuscité apparaît aux disciples alors qu'ils sont rassemblés dans un même lieu. Nous connaissons cet épisode. Il rompt avec eux le pain et ouvre leur esprit à l'intelligence. Attention, nous utilisons une autre dénomination, à l'intelligence des saintes Écritures. À ces hommes effrayés et déçus, il révèle le sens du mystère pascal. Jésus devait souffrir et ressusciter pour offrir la conversion et le pardon des péchés. Mais ce soir-là aussi, nous notons l'importance de la parole que Jésus prononce et il replonge ses disciples dans la Bible tout entière, dans l'Écriture sainte. Et déjà, nous comprenons mieux la relation qui existe entre le Christ ressuscité et glorifié, la communauté des croyants, dont nous sommes, par la grâce de la foi, aujourd'hui encore, et l'Écriture sainte. Et ce lien est extrêmement vital pour notre identité chrétienne, notre condition de baptisé. Ce qui explique le titre de ce que j'essaye de vous partager, l'importance de la parole de Dieu. Il y a donc ce lien entre le Christ et l'Écriture sainte. Mais sans l'Écriture sainte, les événements et la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. Alors, allons un peu plus loin maintenant dans ce lien entre l'Écriture sainte et notre foi. Puisque la foi provient de l'écoute et que l'écoute est centrée sur la parole du Christ. Lien entre l'Écriture sainte et notre vie de croyant. L'importance, pour nous autres, n'est-il pas vrai, de l'écoute de la parole de Dieu, tant dans l'action liturgique que dans la prière et la méditation personnelle. La parole de Dieu, tout d'abord, dans l'action liturgique, c'est-à-dire lorsque nous sommes rassemblés pour la célébration des sacrements, et le plus souvent, évidemment, et c'est bien ainsi, nous sommes rassemblés pour la célébration de l'Eucharistie. Et c'est là, majoritairement, où nous entendons, nous accueillons la parole de Dieu. Pour la grande majorité des croyants, le dimanche est le seul moment où peut retentir dans leur cœur la parole de Dieu, où ils peuvent se familiariser avec l'Écriture sainte. Mais, ce ne sera pas le thème d'aujourd'hui, mais on pourra y revenir une autre fois, la méditation personnelle de la parole de Dieu en dehors de la messe, c'est-à-dire chez nous, à la maison, pour un temps de prière, est aussi vital pour notre vie de croyant. Méditation communautaire de la parole de Dieu, mais méditation, pourrait-on dire, domestique et plus personnelle également, tout comme dans la vie de foi en général. Rien ne remplace la relation personnelle entre le Christ et chacun de nous par la foi. Mais, en même temps, parce qu'un chrétien seul est toujours un chrétien en danger, nous avons besoin de nous retrouver communautairement en Église pour célébrer les sacrements. L'importance de la parole de Dieu. Je cite à ce sujet un texte tout à fait fondamental du Concile Vatican II qui nous met réellement devant le mystère de la parole de Dieu. Si vous voulez y revenir, c'est ce qu'on appelle la constitution dogmatique sur l'Écriture sainte, Dei Verbum, tout simplement, le Verbe de Dieu, au numéro 4. Et le pape émérite bien-aimé Benoît XVI, à l'époque du Concile, est un des grands rédacteurs de ce texte fondamental. Alors, écoutons bien ce que nous disent les pères conciliaires. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. C'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er. Et c'est normal, on chemine vers le mystère de l'incarnation, généralement on entend ce texte au temps de Noël. Après avoir parlé par les prophètes, déjà mode de réception de la parole de Dieu, Dieu en ces jours qui sont les derniers, a parlé par son Fils. Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous les hommes, Souvenons-nous, je le disais amplement, au temps de Noël, ce Verbe éternel qui est la lumière éternelle qui entre dans le monde, qui resplendit toujours sur la face de la terre et des vivants que nous sommes. Ce Verbe fait chair, cette lumière née de la lumière, le Christ, notre espérance, celui qui toujours est au milieu de nous. Oui, Dieu a envoyé son Fils, et le Christ Jésus prononce les paroles de Dieu. C'est donc lorsque on regarde le Christ et qu'on entend les paroles qu'il prononce, que le visage de Dieu le Père se dessine progressivement pour nous. En lui, dans le Christ Jésus, est la plénitude de la révélation, c'est-à-dire la manière dont Dieu se donne à voir à chacun d'entre nous. Saint Jean de la Croix est allé très loin en disant, puisque le Christ Jésus nous a parlé par son Fils, qui est le reflet resplendissant de son visage, désormais il n'y a plus d'autre révélation à attendre. Douter de cela, ce serait douter de Dieu lui-même. Et écoutons aussi ce que nous dit ce même texte du Concile sur la parole de Dieu, sur le lien entre la parole de Dieu et le corps eucharistique du Christ, le sacrifice de l'Eucharistie. Souvent, et c'est bien ainsi, depuis le Concile Vatican II, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore entièrement intégré, on parle, lors de la célébration de la messe, je le disais ce matin, des deux tables auxquelles nous invite le Seigneur ressuscité. La table de la parole et la table du pain eucharistique. Ce que je vais dire maintenant, c'est très important sur la parole de Dieu. C'est la même chose, mais formulée de manière différente, peut-être un petit peu plus compliquée, mais c'est tout le mystère. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur. Elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Nous prenons le pain de vie aussi bien dans la parole de Dieu que dans le corps du Christ. Dès lors, pour nous, déjà, la parole de Dieu est une nourriture véritable. L'importance de la parole de Dieu. Vous avez accueilli la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre dans vos cœurs de croyants. La parole de Dieu, elle est consignée dans ce qu'on appelle la Bible. Mais ouvre-t-on assez souvent chez soi la Bible, les Saintes Écritures? Une anecdote qui circule souvent dans les milieux cléricaux, pour le dire plus simplement, une blague de curé, mais qui nous dit la vérité des choses. Ceci nous arrive bien souvent à nous autres curés ou prêtres d'être invités dans les familles, tout simplement pour partager la table, un moment fraternel. Et Dieu soit loué, ça arrive encore assez souvent d'être invité pour bénir une nouvelle habitation. Or, l'histoire raconte qu'un jour, un curé avait été invité dans de telles circonstances par une famille respectable. Comme dirait Madeleine Delbrel, des chrétiens ordinaires qui allaient à la messe fréquemment. Tiens, on pourrait inviter monsieur le curé. On pourrait lui demander de venir bénir notre habitation. Ce qui se fit. Mais, madame dit à monsieur, tiens, pour la venue de monsieur le curé, il serait bon, ça lui fera plaisir, que l'on ressorte du fond de la bibliothèque la belle Bible avec enluminure reliée, reçue de notre grand-mère. Ce n'était pas aussi simple que cela. Premièrement, cette Bible, elle était cachée dans le dernier rayon et dans l'étagère supérieure de la bibliothèque. Alors on peut broder autour en disant, « Madame dit à monsieur, va chercher l'échelle. » Il prend l'échelle en ayant le but de chercher la Bible, il est à deux doigts de se casser la figure. Bref, il trouve cette Bible magnifique. Le soir arrive, monsieur le curé est là, et on lui présente cette Bible. Monsieur le curé, vous avez vu, elle est magnifique, cette Bible. Ah oui, je vais m'approcher, je vais regarder. Ah oui, effectivement, elle est magnifique. Ah oui, on l'a héritée de notre grand-mère, c'est un trésor familial. Et monsieur le curé de dire, mais en fait, savez-vous, ce n'est pas une véritable Bible. Comment donc ce n'est pas une véritable Bible? Non, parce qu'elle est trop belle pour qu'elle soit une véritable Bible. Si réellement elle était une Bible, il y aurait des traces, des mains, des doigts, peut-être parfois gras des enfants qui auraient touché les pages de cette Bible. Or là, je ne vois rien. Vous ne devez pas la lire très souvent, cette Bible. Non, effectivement. On va vous dire la vérité. On l'a sortie ce soir pour votre venue parce qu'on pensait que ça vous ferait plaisir. Certes, je suis touché par votre geste, mais c'est dommage. Vous avez là, effectivement, un tel trésor artistique à n'en point douter, mais plus profond encore, le trésor de la parole de Dieu. Et vous n'y avez pas recours. Vous devriez l'ouvrir matin et soir, chaque jour, cette Bible et la méditer. Oui, chers amis, c'est ce à quoi nous sommes invités. Mais si j'en ai encore le temps, j'en parlerai tout à l'heure, c'est plutôt l'aspect lectio divina, méditation personnelle de la parole de Dieu. Alors, premier point, c'était l'importance méconnue de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce au fait que la parole de Dieu? La parole de Dieu, comme le dit Paul, c'est pour ça que j'affectionne particulièrement ce passage paulinien, ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. Et quelle est la caractéristique de la parole de Dieu ? C'est que elle est inspirée par l'Esprit Saint. C'est un texte sacré, pour le dire différemment. Alors là, je vais citer à nouveau. Ce texte est si riche, je vous invite à aller le consulter. Dei Verbum. C'est un peu compliqué, mais il faut toujours citer les textes des pères conciliaires. Et ensuite, j'essaierai de l'exprimer plus simplement. Par rapport à la parole de Dieu, on appelle cela l'inspiration. L'inspiration, le souffle donc, l'inspiration par l'Esprit Saint lui-même, comme dit le Concile de la Sainte Écriture. Je cite, « Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, et là, vous voyez, c'est la Bible catholique, comme on dit, telle que l'on a avec les livres qui y sont consignés. Notre Sainte Mère l'Église tient pour sacré tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, c'est là qui est fondamental, ils ont été rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et le Concile va très loin. Ils ont donc Dieu lui-même pour auteur, et ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que lui-même, Dieu, agissant en eux et par eux, puisse mettre par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. C'est là vraiment une explication sur ce qu'est le texte sacré. On ne dit pas seulement la Bible dans la tradition catholique, mais l'Écriture sainte, inspirée par l'Esprit Saint lui-même. Dieu a donc eu recours à l'intelligence humaine et par l'action de l'Esprit Saint a dicté aux hommes ce qu'il voulait leur dire. En d'autres termes, reprenons, le père Wackenheim le citait ce matin, ce beau texte de la vocation du jeune Samuel. À trois reprises, Dieu appelle Samuel. Comment les choses se passent-elles ? En fait, ce n'est pas tout à fait comme avec les moyens de communication modernes, ce n'est pas comme un call center qui ne va cesser de vous assaillir de publicité, qui va téléphoner encore jusqu'à ce que vous décrochiez. Non, Dieu n'agit pas ainsi. On n'est pas en ligne directe avec Dieu. Mais Dieu a choisi des hommes, les prophètes, les évangélistes, pour nous parler. Et c'est l'Esprit Saint qui a permis à Saint Marc, à Saint Jean, à Saint Luc, à Saint Matthieu, au prophète Isaïe, au prophète Amos, au prophète Nahum, je sais que le petit groupe de Lectio Divina, avec sœur Marie-Augustin, vous travaillez ce texte en ce moment. Donc Dieu, par l'Esprit Saint, a parlé à ses auteurs sacrés, et nous sommes les bénéficiaires de cette parole de Dieu qui réellement est une nourriture pour chacun d'entre nous. Et à travers cela, nous comprenons quelque chose de fondamental de notre foi. Nous croyons en un Dieu qui parle. Nous le disons dans le credo. Qui locutus est per prophetas? Il a parlé par les prophètes. Et voilà une affirmation forte. Nous croyons en un Dieu qui parle à l'homme. La nouveauté de la révélation biblique vient du fait que Dieu se fait connaître dans le dialogue qu'il désire instaurer avec chacun d'entre nous. Oui, le Concile le dit encore. Dieu invisible, dans l'immensité de sa charité, s'adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et le recevoir dans cette communion. Il parle notamment à travers la Bible, à travers l'Écriture sainte, parce que ce serait peut-être un autre sujet pour une autre fois, et notre monde a besoin de se l'entendre dire encore, Dieu parle dans le silence. Je pense à un livre admirable de Maurice Hundel qui disait « Le silence parole de Dieu ». Mais, très largement, Dieu nous parle. Dieu entre en dialogue avec nous par la parole de Dieu, par la Bible. Il nous parle, c'est fondamental que le Concile ait dit ça, comme un ami parle à un ami. Tiens, on disait déjà cela de Moïse. Moïse ne pouvait pas voir Dieu face à face. Tu ne peux pas vivre et me voir. Mais Moïse avait cette grâce exceptionnelle d'écouter le Seigneur et de son côté de lui parler comme un ami parle à un ami. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu ? Eh bien, pour dire bref, c'est un texte inspiré, rédigé sous la mouvance de l'Esprit Saint par les prophètes, par les évangélistes, par les apôtres, Paul, pour revenir à lui. Mais la Bible n'est pas une collection de livres d'histoire ni de chroniques, ce serait aussi une autre causerie, il y a différents styles littéraires dans la Bible, mais ce n'est pas avant tout une collection de livres, de romans ni de chroniques. Non, mais c'est la manière continue dont Dieu parle avec nous. Alors posons-nous maintenant cette question. Où pouvons-nous écouter Dieu et sa parole ? C'est fondamentalement, je viens de le dire, dans l'Écriture sainte où la parole de Dieu devient audible pour nous et alimente notre vie d'amis de Dieu. Et si la Bible n'est pas une collection de livres d'histoire, elle raconte la révélation de Dieu à l'humanité. Elle nous raconte une histoire continue dans laquelle Dieu conduit son projet de salut et se fait proche de chacun de nous, à travers de nombreuses figures lumineuses et de personnes qui croient en lui et qui se confient à lui, les prophètes, jusqu'à la plénitude, je le disais, de la révélation dans le Seigneur Jésus. Alors pour conclure, je voulais terminer à moins le quart, mais une fois de plus, c'est foutu. L'accueil et l'écoute de la parole de Dieu, tout d'abord, le dimanche à la messe ou lorsque on participe à la messe en semaine. Et c'est le cas d'un certain nombre parmi vous et je m'en réjouis. Avez-vous déjà remarqué que le dimanche notamment, on encense un livre l'évangéliaire. Aujourd'hui, ce magnifique évangéliaire disposé ici, vous aurez le droit de venir le voir de plus près, mais c'est comme Dieu, vous n'aurez pas le droit de le toucher, vous pourrez regarder. Et qu'est-ce qui est sur cet évangéliaire? Au milieu, le Christ, la plénitude de la révélation et la clé de compréhension et de l'écriture sainte, entourée aux extrémités de la couverture des quatre évangélistes. Et puisque nous croyons que dans la parole de Dieu et dans le Christ, le Verbe fait chair, Dieu nous parle personnellement, alors c'est normal que le dimanche, et je l'ai fait solennellement ce matin à plusieurs reprises lors de la messe, on encense un évangéliaire. Parce que c'est déjà le Christ qui se donne à nous. Autrement, si on encensait un livre, ce serait du paganisme, ce serait de la superstition, ce serait de l'idolâtrie. Or là, rien de tel. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on encense généralement? On encense les oblats, les offrandes qui deviendront corps et sang du Christ. On encense aussi, c'est très beau, les corps des défunts lors des funérailles, pour dire qu'ils sont promis à la résurrection. Et justement, on encense l'évangéliaire, parce que le Concile Vatican II le dit aussi clairement. Lorsque l'évangile est proclamé lors de la messe, il faut croire fermement que le Christ se tient au milieu de nous et nous enseigne en personne. Voilà pourquoi on encense l'évangéliaire. Et rapidement encore sur la réception communautaire de la parole de Dieu, je ne sais si vous y avez prêté attention, il y a toujours un lien entre la première lecture et l'évangile. Ce n'est pas sans raison. Qu'est-ce qui nous était décrit ce matin dans la première lecture ? Je le cite encore rapidement et vous comprendrez tout de suite le lien entre la première lecture et l'évangile. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporte le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tiens, on croit reconnaître une communauté chrétienne, mais c'est la communauté synagogale. C'était le premier jour du septième mois. Esdras fit la lecture dans le livre en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois. Il ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Et tous étaient là à écouter. Et Esdras, en quelque sorte, faisait l'homélie. Il donnait le sens et l'on pouvait comprendre. Dans l'Ancien Testament, et qu'est-ce que j'ai proclamé avant comme évangile ? Jésus, qui ce jour-là était dans la synagogue de Nazareth, qui commente le passage d'Isaïe et qui dit « C'est aujourd'hui que s'accomplit pour vous ce passage de l'Écriture. » Et vous voyez, il y a toujours un lien entre la première lecture et l'évangile. Et ceci, une fois encore, pour dire que réellement, le Christ récapitule toute chose en lui. Il explique, comme pour les disciples d'Emmaüs, le sens de l'Écriture. Bref, il est la plénitude de la révélation. Voilà l'importance vitale pour nous de la réception de la parole de Dieu. Et puis, une autre fois peut-être, parce que je disais que c'est très important, on pourrait parler à nouveau de la lectio divina. La lectio divina, c'est plutôt ouvrir la Bible chez nous, méditer sur un passage, et puis, après avoir lu une première fois le texte, méditer sur ce que le texte nous dit, Et ensuite, on passe à la prière. À partir de ce texte, on peut adresser une prière à Dieu. Et ensuite, parce que on n'adore pas seulement Jésus dans son corps eucharistique, on peut l'adorer aussi dans son écriture sainte. C'est ce qu'on appelle la contemplation de la parole de Dieu. Mais nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Je voudrais maintenant, premièrement, vous remercier pour votre attention et terminer à nouveau par ce chant. Nous chanterons pour toi. Vous aurez, je vous l'ai dit, le droit gratuitement, parce que la parole de Dieu est toujours gratuite, de venir voir ce magnifique évangéliaire. Et ensuite, vous voudrez bien reprendre votre place ayant vénéré cet évangéliaire, eh bien, nous chanterons les vêpres et puis nous adorerons le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je vous invite à vous lever pour le chant.
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délie. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nos délits.